Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie Délices des Anges à Pommeraye.
Et ce matin, dans la matinale, nous recevons Martial Collet, des conseillers municipaux à Ploufragan dans les Côtes d'Armor. Il est tête de liste lutte ouvrière aux élections régionales et il est notre invité en direct en studio. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Martial Collet, vous repartez pour une nouvelle séquence électorale, allais-je dire, pour ces régionales. La gauche est vraiment la gauche de la gauche, on pourrait le dire comme ça, lutte ouvrière. Comment passe le message de lutte ouvrière aujourd'hui dans un monde fracturé, dans un monde politique aussi fracturé ?
Alors, notre liste s'intitule « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». C'est un programme politique en lui-même. Ça résume bien ce que l'on veut défendre et faire entendre durant cette campagne. Ces listes, puisqu'il n'y en a pas simplement en Bretagne, mais il y en a dans toutes les régions et même aux Antilles. Donc, même si aux Antilles, les élections sont un peu différentes. Mmh. Donc, nous serons présents pour faire entendre le camp des travailleurs. La situation que nous vivons est effectivement une situation particulière, puisque nous vivons depuis plus d'un an maintenant avec ce virus, cette pandémie. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que cette pandémie est venue se superposer à la crise économique qui faisait déjà beaucoup de dégâts dans le monde du travail. Et cette pandémie, cette crise sanitaire a révélé encore un peu plus les contradictions de ce système capitaliste. Et le monde économique organisé autour des entreprises, du patronat, a fait que l'aggravation des conditions de vie du monde du travail a été encore plus durant cette période. Il est donc important que le monde du travail, la population travailleuse, ne soit pas une nouvelle fois victime de cette crise, de ces deux crises, et fasse entendre ses propres revendications. Et donc, dans cette campagne électorale, nous ferons valoir ce que le monde du travail doit défendre. Et c'est pour ça que notre programme n'est pas un programme électoral, n'est pas un catalogue de mesures électorales, mais un programme de lutte sociale. Nous voulons donner des perspectives au monde du travail et en disant que les choses changeront pour eux lorsqu'ils se mobiliseront. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans ce contexte, mais une élection, une campagne électorale, c'est l'occasion de populariser un certain nombre de mesures et d'expliquer comment ces mesures pourraient être mises en œuvre. Et en particulier, aujourd'hui, le monde du travail ne doit pas faire les frais de la crise et si l'on veut que les choses changent, il faudra faire payer le grand capital, le grand patronat qui aujourd'hui bénéficie de mesures financières puisque le gouvernement a déversé des milliards et des milliards pour soutenir l'économie. Mais malheureusement, on voit que ces aides sans précédent n'ont empêché ni licenciement, ni fermeture d'entreprise, ni un appauvrissement d'une grande partie de la population. Et en région Bretagne, on a malheureusement des entreprises et des travailleurs qui ont été victimes de ces plans de restructuration, d'entreprises immensément riches. Je pense à Nokia à Lannion, qui est un groupe international qui a bénéficié de subventions publiques très importantes et qui n'a pas hésité à mettre en place un plan de licenciement qui concerne plusieurs centaines de salariés, mais aussi les filiales d'Air France à Morlaix. Hop. Et aujourd'hui, ce sont les travailleurs de la fonderie de Bretagne à Caudan qui sont confrontés à la perspective d'une fermeture de leur usine de production.
Alors, Martial Collet, il y a deux niveaux de lecture aussi. Hein. Vous parlez des grandes entreprises, ces grandes entreprises internationales qui ont peut-être, allez, on va mettre les guillemets, qui s'imposent, mais profiter de la crise peut-être pour alléger leur masse salariale. Il y a aussi les petites entreprises et quelquefois même les micro-entreprises qui, elles, ont aussi été frappées de plein fouet par la crise et où les patrons ont subi peut-être autant que leurs salariés.
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de secteurs économiques, dans l'artisanat, le commerce, ceux qui sont fermés, évidemment, subissent les conséquences de cette crise sanitaire et sont confrontés à de réels problèmes. Et leurs salariés, quand ils ont des salariés, encore plus. Parce qu'aujourd'hui, s'il existe des possibilités pour certains salariés de bénéficier de mesures de chômage partiel, aujourd'hui, le chômage partiel, c'est simplement 84% du salaire antérieur. Donc, c'est une perte et un manque à gagner. Mmh. Et moi, je pense essentiellement à ces travailleurs, à ces gens-là. Alors, évidemment qu'un petit artisan, un petit commerçant qui, aujourd'hui, ne peut pas exercer son métier, sa profession, et qu'il a également un manque à gagner, est aussi victime, finalement, de l'organisation de cette société. Et lorsque Macron disait la crise, nous sommes en guerre et nous ferons tout quoi qu'il en coûte. En fait, quoi qu'il en coûte, et l'argent que le gouvernement a généreusement distribué, il a plus profité aux grands groupes que à ces petits artisans ou à ces petits commerçants qui aujourd'hui ne peuvent pas exercer leur activité. Et pour moi, c'est quand même scandaleux dans une période de crise économique qu'il y ait plus de milliardaires en France que des grandes entreprises aient réussi à presque doubler leur profit dans une année de crise sanitaire où beaucoup de choses ont manqué. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale et il faut absolument y remédier. Et c'est là où nous disons que le monde du travail doit effectivement se mobiliser, défendre ses droits, dans les entreprises, dans la rue. C'est absolument urgent.
Marcel Collet, comment lutte ouvrière peut mobiliser aujourd'hui? Quels sont vos moyens de mobilisation des travailleuses, des travailleurs?
Alors nous continuons évidemment nos activités politiques, même si c'est plus difficile aujourd'hui. Par exemple, dans la campagne qui s'amorce, on n'a pas la possibilité de faire des réunions publiques, par exemple. Mais c'est pas pour autant que notre campagne ne se déroulera pas. Au contraire, nous serons présents sur le terrain et nous mobiliserons nos militants, nos sympathisants sur les marchés, dans les lieux publics, à la porte des entreprises, dans les quartiers populaires, partout où finalement se concentre la population travailleuse qui subit tous les coups aujourd'hui. Donc on sera sur le terrain et on fera une campagne militante, des tracts, de la discussion, de la conviction. Voilà ce qui sera le travail des militants, des candidats et des candidates de lutte ouvrière pour les élections régionales pour les semaines qui viennent.
Alors, les élections régionales se tiennent en tout cas dans un contexte particulier, hein, vous l'avez rappelé, Marcel Collet, contexte aussi d'un pays divisé, peut-être un peu moins marqué en Bretagne, mais le pays est divisé. Et puis, on a aussi une division politique. Alors là, pour le coup, elle est marquée en Bretagne. Comment s'inscrire dans cette division politique, la gauche qui a connu une scission, finalement, la droite qui peine à se réunir, si j'ose dire, et le Rassemblement national qui monte inexorablement?
Alors bon, tout ça, on est toujours dans la séquence politique qui a vu l'élection de Macron et avec l'explosion de la gauche et l'explosion finalement de la droite et la persistance par contre des idées nauséabondes du Front National ou du Rassemblement National puisque c'est son nouveau nom. Mais enfin, son programme qui est quand même basé sur la division, l'exclusion, le racisme, le rejet des autres reste et progresse. Nous, face à ça, on a des idées de lutte de classe, de solidarité à opposer. Alors nous rentrerons pas dans le débat politicien et nous ne choisissons pas évidemment entre aucune des écuries sortantes, que ce soit celle du président de région qui se réclame encore du Parti Socialiste ou de son vice-président qui a choisi lui de faire équipe avec l'équipe présidentielle. Nous ne reconnaissons pas dans ces combinaisons. On pense d'ailleurs que la situation est tellement grave, et une grande partie de la population l'a bien compris, et d'ailleurs se désintéresse de ce jeu politicien. Aujourd'hui, il faut au contraire dire qu'il faut rompre avec ce système. Le monde du travail, les travailleurs font tout fonctionner dans cette société.
Les travailleurs, pardonnez-moi Marcel Collet, mais les travailleurs votent, mais il y a quand même un fort taux d'abstention. Comment ramener justement les travailleurs, par exemple, aux urnes ? Parce qu'on sent qu'il y a un côté un petit peu désabusé aujourd'hui face au monde politique.
Ah oui, beaucoup de gens, en particulier dans les classes populaires, se désintéressent, ne pensent plus que une élection puisse changer la vie. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que si on assiste aujourd'hui à un délitement de la vie politique, c'est aussi le résultat de plusieurs dizaines d'années où tous les partis de la gauche traditionnelle, PS, PC et autres, se sont complètement déconsidérés. Rappelez-vous Hollande qui disait vouloir faire payer les riches, et puis finalement il a fait le contraire. Donc tout ça a entraîné quand même un grand désaveu, et donc ces partis ont été sanctionnés. Malheureusement, cet électorat ne s'est pas tourné vers notre courant politique. Mmh. C'est un constat, c'est un fait. Cela dit, nous, on ne veut pas être semeurs d'illusions. On ne veut pas dire il y a un sauveur suprême. Lutte ouvrière sera le sauveur suprême. Nous voulons exprimer dans cette campagne et plus largement dans toutes nos activités politiques l'idée que les travailleurs ont la force, ont les moyens d'être une force politique, non seulement sur le plan économique, c'est eux qui font, encore une fois, tout fonctionner dans la société, et on l'a vu particulièrement dans la crise sanitaire, où le personnel hospitalier, les personnels de santé, sans aucun moyen au départ, sans masque, sans test, sans matériel, devaient faire face à la pandémie et accueillir les malades du Covid et faire comme ils pouvaient et au mieux. Eh bien, ce sont eux qui étaient au front.
Mm-hmm. Les fameux premiers de cordée.
Oui, les fameux. Je suis pas sûr que ce soit à ceux-là qu'il pense. Lui, il pense plutôt aux gens qui ont de l'argent, à son milieu finalement. Mais dans la crise sanitaire, ce sont les petites gens qui ont été au front, sans beaucoup de moyens, et pourtant ils ont fait face. Ils ont pris tous les risques. Et cette société leur a fait prendre tous les risques. Et donc, nous considérons que ce serait légitime de dire, nous, on fait tout fonctionner, nous, on va diriger cette société, et on fera bien mieux que tous ceux qui le font aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut parler toujours aujourd'hui de lutte des classes ? C'est un terme qui revient de temps en temps dans une société très morcelée, très individualisée.
Alors, la lutte de classe, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas un concept. Quand les travailleurs de l'usine de la fonderie de Caudan, alors qu'ils font des choses utiles, apprennent, malgré des promesses faites antérieurement, que leur activité serait maintenue, que leur usine risque de fermer, en invoquant, en tout cas c'est ce que la direction de Renault avance, que l'heure ne serait plus aux moteurs traditionnels, mais qu'on penserait plus à des moteurs plus verts, plus écologiques, puisque c'est quelque chose qui est à la mode et qu'ils doivent perdre leur emploi en conséquence. Eh bien, quand ils disent non, ils ont raison, parce que leur travail, c'est leur seul moyen de vivre, c'est ce qui leur permet d'obtenir un salaire pour vivre, faire vivre leur famille, et donc ils sont en état de légitime défense. Et ça, c'est la lutte de classe. Et donc, c'est pas un concept, c'est une réalité, parce qu'ils se heurtent finalement à des intérêts opposés, et ce sont essentiellement des intérêts financiers. Et bien, nous pensons qu'il faut réorganiser la société en fonction des intérêts de tous, et que l'on prenne en compte les besoins de tous, et d'abord les besoins essentiels. Et aujourd'hui, chacun doit disposer d'un emploi, d'un vrai salaire. Et alors qu'on a à faire face justement à une explosion du chômage, il y a beaucoup trop de secteurs où les gens, les travailleurs sont débordés, croulent sous le travail, et à côté, des millions de gens qui n'ont aucun emploi, qui n'ont aucun revenu. Et bien ça, c'est une aberration sociale. Donc nous pensons qu'il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire. Et ça, comment financer tout ça ? Bien, en prenant sur les profits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des masses de capitaux qui circulent à travers la planète, qui servent à la spéculation, mais qui ne servent à rien pour la société. Eh bien, nous nous disons, il faut privilégier les besoins sociaux. Et ça, c'est le monde du travail qui peut mettre en musique cette politique.
Alors le monde du travail évolue aussi, il sait évoluer, il sait s'adapter au temps. Vous faisiez allusion à la fonderie de Caudan tout à l'heure. Est-ce que dans une économie qui devient, alors dit-on en tout cas de plus en plus verte, est-ce qu'il va falloir aussi que les modes de travail, les modes de production évoluent, et est-ce qu'il va falloir garantir aussi évidemment les salariés face à ces évolutions presque naturelles ?
Je pense que tout à chacun est préoccupé de l'avenir de la planète, et nous les premiers. Mais je crois que la réponse viendra du monde du travail. C'est que aujourd'hui, le monde politique, le monde économique a beaucoup verdi son discours, mais en réalité, dans les actes, la dégradation de la planète continue. Parce que finalement, qui a les leviers ? Qui décide ? Et encore une fois, les principaux pollueurs, ce sont les principaux groupes industriels de cette planète. Et rien n'est fait pour les empêcher de nuire. Donc, on a d'un côté un discours verdoyant, printanier, et en réalité, une planète qui se dégrade. Mais qui se dégrade comme toute la société se dégrade. Donc nous pensons que, évidemment, ces préoccupations environnementales, de préservation de la vie, doivent être prises en compte. C'est certainement une priorité, mais les réponses ne peuvent venir que d'une mobilisation du monde du travail, qui intervient dans tous les secteurs de la société, qui sera le mieux à même de répondre à ces questions environnementales. Et pour ça, je pense qu'il faut aujourd'hui, premièrement, contrôler ces grands groupes, savoir qu'est-ce que c'est que leur plan. Même quand ils disent qu'ils vont protéger la planète, c'est pour aller polluer et déverser leur saloperie dans des pays pauvres comme en Afrique, où finalement ils monnayent leur droit à polluer, et bien ça, faut que ça s'arrête. Faut que ça stoppe, c'est une obligation.
Alors, il y a aussi l'aspect de la jeunesse en France. On voit cette jeunesse qui s'est mobilisée malgré la pandémie. Il y a eu beaucoup d'actes de solidarité. Jeunesse qui souffre beaucoup. On a vu les étudiants dans ces files d'attente pour pouvoir parfois juste se nourrir ou obtenir un peu de sous pour pouvoir se loger sans même penser à poursuivre leurs études. Est-ce que, justement, cette jeunesse qui est très solidaire peut être une des parts d'espérance du monde futur ?
Bien sûr, c'est la jeunesse qui fera le monde de demain, et nous avons confiance dans cette jeunesse, dans sa capacité à se révolter.
Elle s'engage, la jeunesse, aujourd'hui.
Oui, une partie s'engage, est sensible justement à des domaines environnementaux. L'avenir de la planète, c'est quelque chose qui revient régulièrement, et à travers des manifestations, c'est une bonne chose, mais je crois qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut remettre en cause le fonctionnement de ce système. C'est-à-dire que, comme disent certains dans les manifestations, c'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le capitalisme. Et nous, c'est vraiment à ça qu'on s'attelle. Et tout le programme qu'on défend depuis des années, eh bien, nous espérons qu'il sera largement repris dans les années futures par les générations futures, car il en va véritablement de l'avenir de l'humanité.
Marcel Collet, on parlait tout à l'heure de la gauche dans sa composante la plus large. Est-ce qu'on vous a proposé de rejoindre, par exemple, une union de la gauche ? Est-ce que ça a pu être imaginé à un moment ?
Dans le contexte actuel, non. Aucun des partis, je vais même pas dire grand parti, parce qu'aujourd'hui, ce qu'était la gauche gouvernementale est quand même largement réduit, et dans ses forces militantes, et dans ses forces électorales. Et donc, ils continuent à faire leur petite tambouille. Maintenant, ça suscite pas d'espoir. Donc, c'est pas de ce côté-là que nous nous voyons un avenir. Et en tout cas, nous disons aux travailleurs que c'est pas de leur côté que l'espoir renaîtra. Parce que tout leur programme, c'est des vieilles ficelles. C'est des vieilles ficelles électoralistes dont on a vu que si finalement on ne remettait pas en cause les fondements du fonctionnement de cette société, eh bien, ça ne pouvait arriver qu'à une gestion comme les autres. Et finalement, au bout du compte, à démoraliser, à faire en sorte que leur propre électorat se détourne de ces gens qui prétendaient changer le monde, en tout cas changer la société, alors que finalement ils se sont contentés de rentrer dans les places qui leur étaient offertes, d'occuper les fauteuils et puis se couler dans le moule comme les autres. Mmh. Et finalement conforter cette société qui se délite un peu plus tous les jours.
Alors, en Bretagne, il y a des grands enjeux du territoire. On pense à la mobilité, on pense aux territoires ruraux aussi qui, aujourd'hui, on peine parfois à exister face aux grandes métropoles. Alors, on pense à Brest, Rennes ou Nantes, même si on va plus au sud. Est-ce que là aussi, il faut avoir un programme qui puisse faire les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, vivre au pays et travailler au pays ?
Bah, je ne sais pas si c'est travailler au pays, mais déjà que tout le monde ou que chacun ait un travail. Mmh. Un travail et un travail rémunéré, pas des sous-emplois, pas des petits boulots comme on voit malheureusement de plus en plus fleurir. Pas simplement des boulots saisonniers si ce n'est pas choisi. Mmh. Et ça dépasse largement le cadre des régions. C'est un problème beaucoup plus général. Évidemment que chaque territoire a des particularités. En Bretagne, l'industrie agroalimentaire est extrêmement présente, mais n'offre pas vraiment de perspective pour la jeunesse. Parce que travailler dans un abattoir avec des salaires de misère, des conditions de travail extrêmement difficiles, et le risque aujourd'hui d'être contaminé parce que les patrons de ces grandes entreprises de l'agroalimentaire considèrent que ce sont eux qui font la loi, y compris la loi sanitaire. Et je parle en connaissance de cause. Donc ça, c'est des choses qu'il faut changer. Mais ça veut dire remettre en cause la dictature du capital. Donc pour la jeunesse, oui, un avenir, oui, un emploi, oui, des perspectives de vie meilleure. Mais je crois que les jeunes devront se l'arracher eux-mêmes.
Et puis il y a les migrants, on en parle beaucoup aujourd'hui, il y en a en Bretagne, comme dans toutes les autres régions, qui travaillent aussi dans ces industries. Est-ce qu'ils sont assez protégés en tant que travailleurs ?
Il y a quelques mois, dans la région de Morlaix, des travailleurs africains sans papier ont décidé de se faire connaître au grand jour. Ils étaient employés dans le ramassage de volailles, surexploités, n'avaient même pas véritablement de logement décent, et on leur faisait miroiter une régularisation qui finalement n'a jamais vu le jour parce que leur patron a décidé de mettre la clé sous la porte. Et on sait que dans le secteur de l'agroalimentaire, beaucoup de ces travailleurs sans papier sont employés. Bon, une entreprise comme la Coperle ou Kermené, donc les grands abattoirs du département, emploient beaucoup de main-d'œuvre immigrée, mais c'est plutôt une richesse. Parce que ce brassage permet de montrer que la classe ouvrière, elle est, au-delà de sa couleur de peau, très diverse, mais est une force essentielle. Et pour nous, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue, ce sont des travailleurs qui ont le droit de vivre. Et quand ils n'ont pas de papier, ils doivent en avoir. Ils doivent pouvoir en bénéficier et ne pas considérer que ce sont des étrangers ou des ennemis. La planète, c'est une multitude de populations diverses, variées, avec des langues, des coutumes. Mais on est aujourd'hui dans une période où c'est plus des idées d'individualisme, de repli sur soi qui sont véhiculées. Nous, au contraire, on aspire à une planète et à un monde débarrassé de frontières où tous les hommes seraient frères.
belle perspective, avec aussi une belle perspective de solidarité, parce que on voit aussi quelques artisans. On pense à ce boulanger qui a défendu jusqu'à la grève de la faim son apprenti, son ouvrier qui était d'origine étrangère et qui travaillait très bien et qui était menacé d'expulsion. Est-ce que aujourd'hui on est aussi rentré, alors je ne vais pas dire grâce, mais en tout cas avec cette pandémie, dans des petites solidarités comme ça qui change tout finalement au quotidien?
Alors la pandémie a révélé justement que les petites gens, ceux qui étaient en première ligne, étaient extrêmement solidaires entre eux. On a vu évidemment lors de la première vague les applaudissements dans les cités populaires d'une façon extrêmement spontanée, voir des gens qui se préoccupaient de leurs voisins. Bon, bah, il faut que ça continue. Malheureusement, le fonctionnement au quotidien de la société fait que on met plus en valeur des idées individualistes que des idées de solidarité et de collectivité. Bien, nous continuons à penser que ce sont plutôt ces idées-là qui ont de l'avenir.
Alors, très rapidement, il nous reste quelques secondes, Martial Collet. J'aurais voulu vous entendre sur les langues. Je pose la question aux différents candidats qui se succèdent à ce micro de la matinale sur les langues de Bretagne. On en parle beaucoup avec la loi Molac. Et puis aussi sur la réunification de la Bretagne avec le retour possible de Nantes en Bretagne.
Alors, sur les langues, d'une manière générale, je pense que tous ceux qui souhaitent parler breton ou gallo devraient pouvoir le faire et trouver les moyens dans le cadre de l'enseignement public. Mais le problème le plus important, à mon avis, et c'est ça notre préoccupation principale, c'est qu'aujourd'hui, bien des élèves, bien des enfants ne maîtrisent pas une seule langue, et en particulier le français. Pourquoi ? Parce que l'éducation nationale a subi depuis des dizaines d'années des restructurations, des suppressions de postes dans l'enseignement et pour le personnel des écoles, et que aujourd'hui ça manque cruellement. Et la pandémie et le travail à distance n'a fait que révéler ces fractures. Donc la priorité des priorités, c'est que l'éducation nationale puisse disposer de beaucoup plus de moyens. Quant à la question de la réunification avec la loi Atlantique, qui revient périodiquement dans le débat politique, pour nous, notre identité, c'est d'abord l'identité du monde du travail. Et ce sont ces intérêts que nous voulons faire valoir et mettre en avant. Parce que dans la question de cette réunification, d'abord, aujourd'hui, tel que ça fonctionne, on a d'un côté une grande métropole qui est Nantes et de l'autre côté une grande métropole qui est Rennes, et à ma connaissance le petit monde politicien qui gère ces deux grandes métropoles n'a pas l'intention de se réunir. Alors bon, on peut toujours continuer à en discuter. Nous, ce que nous voulons faire valoir, c'est que le monde du travail se défende et fasse entendre ses droits. Et pour ça, il devra se battre et se mobiliser contre le monde capitaliste.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Martial Collet. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Ploufragan, dans les Côtes d'Armor, et également tête de liste lutte ouvrière au régional. Et vous étiez l'invité de la matinale ce vendredi en direct. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci bien.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.